l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Lionel.
Votre invité ce matin, Alain Descombelles, le représentant local du Rassemblement National.
Alain Descombelles, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'on apprenait hier soir, peu après 21h, que Marine Le Pen était frappée d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. On a parlé d'une véritable déflagration. Vous, quelle a été votre réaction hier soir quand la nouvelle est tombée ?
Une grande déception parce qu'on espérait que les juges soient un peu plus raisonnables. Mais il est vrai que pour être raisonnable, comme ce sont des gens très intelligents, encore aurait-il fallu qu'il y ait un texte de loi qu'ils ont appliqué, qui soit un peu mieux écrit. Et je pense que quand vous avez des opinions politiques et qu'on vous donne un texte qui vous permet éventuellement de vous tordre le bras, c'était peut-être plus simple. Donc maintenant, la justice est passée. Les uns diront que cette justice était tout à fait logique. Et aujourd'hui, on voit bien le séisme que ça crée.
Voilà, on parle de séisme, de déflagration. De...
Oui.
C'est vraiment votre impression, c'est comme ça que vous le ressentez ?
Oui, dans le sens où déjà vous voyez l'intervention de bon nombre de personnalités, que ce soit des personnalités politiques françaises, mais aussi de grandes personnalités dans le monde entier, qui donc trouvent que cette histoire est devenue un drame pour une démocratie qui aujourd'hui, comme disait le général de Gaulle, le plus important, c'est le peuple, et s'il y a que lui qui peut décider, eh bien aujourd'hui, on se rend compte que non, et on se rend compte que on est dans un système sur lequel, d'ailleurs, comme je disais, ce sont les élus et les députés français qui se sont tirés une balle dans le pied depuis le cas de Cazeneuve, et qui donc nous a amenés là, en sachant que, bien entendu, un certain nombre doivent être satisfaits en croyant que Marine Le Pen est morte.
Alors, de l'information, je le disais, est tombée pour nous dans la soirée, hein, vers 21h, 21h30. Depuis, vous avez eu des contacts avec les représentants nationaux du Rassemblement National ?
Oui, tout à fait. J'ai eu notamment Louis Alliot. On a pas mal échangé.
Louis Alliot qui lui aussi est condamné.
Oui, est concerné alors il est condamné, mais lui, il a la chance de pouvoir faire appel sans être suspendu. Donc il va garder sa mairie de Perpignan. Et au vu d'un appel, je pense qu'il pourra se présenter aux élections municipales, ce qui est une bonne chose pour le Rassemblement et aussi pour la ville de Perpignan. Mais bon, vous savez, en politique, on est mort que quand on est dans le cercueil. Et je pense qu'aujourd'hui, on enterre un peu rapidement Marine Le Pen qui va se battre et qui est quelqu'un qui en a vu d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait un mauvais calcul de croire que le Rassemblement National va être affaibli. Au contraire, moi, je pense que ça va le renforcer.
Mais alors concrètement, Marine Le Pen ne peut pas se présenter, en l'état actuel, aux élections présidentielles de 2027. Il y a une solution quand même, il y a encore quelques possibilités d'appel qui pourraient lui permettre de se présenter.
Oui, tout à fait. D'abord, il y a le timing, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une décision du parquet de réduire le temps et d'éviter d'attendre 3 ans pour passer un appel. Et puis il y a aussi bien sûr quelques recours pour faire une suspension d'appel. Bon, c'est un chemin étroit, mais c'est un chemin qui existe. Maintenant, il est très clair qu'aujourd'hui, elle reste quand même députée de la République jusqu'à éventuellement la prochaine élection législative. Et je crois que ce boomerang qui va revenir dans la tête de l'ensemble des élus politiques français, il y aura très certainement au courant du mois de juillet un mouvement qui va se faire dans le sens où on peut penser à une motion de censure.
En juillet, avec éventuellement des législatives, s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, puisqu'elle est possible à partir du mois de juillet.
Tout à fait. Et je pense qu'elle fait partie du programme, en sachant que, comme je vous disais, Louis m'expliquait qu'ils n'avaient jamais reçu autant d'adhésions depuis hier soir, de gens qui étaient assez furieux de la situation. Et donc, on peut partir du principe que ces élections législatives qui seront anticipées à partir du mois de juillet peuvent aussi rebattre les cartes, parce que de 145 députés, je pense que le Rassemblement National, au vu d'ailleurs de la situation dramatique de la France, peut très bien monter à 200, 250. À ce moment-là, ça change toute la donne, parce que dans ce cas-là, quid, bien entendu, du président Macron, et s'il reste, il me semble que ce serait difficile pour lui de ne pas proposer un Premier ministre qui soit effectivement du Rassemblement National.
Et en attendant, sans aller à la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut penser que cette situation pourrait inciter les députés du Rassemblement national à, à censurer le gouvernement Bayrou, s'ils en ont l'occasion ?
C'est très clair, je pense que tous les coups seront permis. Vous savez, à partir du moment où on vous tape dessus, il faut être stupide de ne pas vouloir y répondre. Donc je pense qu'il est très clair. D'ailleurs, Marine Le Pen avait commencé à être un peu agacée par le fait qu'on lui avait promis, notamment de modifier la loi concernant tout ce qui était un vote...
La proportionnelle,
merci. Et donc, elle commençait un peu à s'agacer de tout ça. Donc, je pense qu'il peut avoir toute une série de raisons de faire tomber ce gouvernement, qu'il aura malheureusement de toute façon bien cherché.
Et en attendant, c'est après, avec cette décision qui fait que Marine Le Pen ne pourra sans doute pas se présenter à la présidentielle de 2027, c'est Jordan Bardella qui est le mieux placé. Est-ce que d'ores et déjà, c'est lui qui va devoir prendre des dispositions pour être candidat, même s'il y est, est-ce qu'il y est prêt ? Qu'est-ce que...
Ben, aujourd'hui, on part du principe que la candidate, ça reste Marine Le Pen, qui a encore du temps. Mais il est très clair que c'est, je dirais, l'une des rares, si ce n'est la seule, à avoir déjà préparé son futur, puisque Jordan Bardella était prévu déjà pour être Premier ministre. Ça veut donc dire qu'elle n'a pas d'état d'âme pour justement s'entourer de gens qui ont des capacités. Maintenant, l'objectif pour l'instant, c'est que ce soit elle qui se batte jusqu'au bout. Il y a des recours possibles, et en même temps, il y a certainement aussi une volonté de sa part à pouvoir démontrer, parce que vous savez que si elle obtient par exemple les 500 signatures, rien ne l'empêche d'aller voir le Conseil constitutionnel et de réclamer effectivement auprès du Conseil constitutionnel, qui déjà a eu des formules un peu plus proportionnées, je dirais, sur le sujet, et qui pourrait lui permettre de se présenter. Donc il y a plusieurs possibilités, les avocats sont dessus, je dirais certains experts, donc pour l'instant rien n'est définitif, et heureusement, parce que de toute façon, même si elle ne pouvait se présenter légalement, je pense qu'elle sera, elle aura toujours énormément d'influence sur le parti, et elle restera là dans toutes les campagnes, d'une manière ou d'une autre.
Alors sur un plan judiciaire, c'est cette notion d'exécution provisoire qui fait que la peine d'inéligibilité s'applique même s'il y a appel. Comment vous l'interprétez ? Certains parlent déjà de coup d'état des juges. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté du pouvoir judiciaire d'intervenir dans le pouvoir politique, ou est-ce que les juges n'ont fait qu'appliquer la loi finalement ?
Vous savez, quel que soit le métier que vous faites, les hommes et les femmes sont que des hommes et des femmes avec leur vision à eux, leur personnalité et leurs convictions. D'ailleurs, je crois que la juge qui a pris cette décision avec ses deux assesseurs expliquait qu'elle était rentrée en politique parce qu'elle était une grande admiratrice d'Eva Joly. Bon, donc on sait qui était Eva Joly, notamment lorsqu'après elle a basculé en politique. Donc, et d'ailleurs c'est son droit, hein, après tout, si elle a une vision écologiste et une vision, on dirait plutôt socialiste. Mais malgré tout cela, la façon dont elle agit, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un texte mal foutu, c'est le terme que l'on peut employer, et qui aujourd'hui a été certainement exploité. Donc après, chacun y met sa sensibilité. Je ne dis pas que c'est anormal dans le sens où, à son avis, pour elle, elle pense certainement avoir bien fait. Vous savez, quand on a des convictions, ça paraît logique. Si ce n'est que ça peut priver les Français, c'est pour ça qu'ils sont très frustrés, on va voir. Parce que l'incidence peut être beaucoup plus dramatique qu'on peut l'imaginer en France. Et donc, c'est pour ça que je dirais qu'à un moment donné, il faut peut-être avoir des textes qui soient bien mieux bouclés, plutôt que d'être dans la précipitation pour faire plaisir. Mais bon, vous savez que les élus ne pensent qu'à une chose, c'est être réélus. Et chacun d'entre eux, sur la période de 2017, parce que je crois que c'est un texte qui vient de notre ami ancien président Hollande, après le cas Cazeneuve, qui n'est quand même pas le même cas, parce que je rappelle quand même qu'à aucun moment elle ne s'est enrichie personnellement de quoi que ce soit. Et je pense qu'elle a raison de se battre pour dire qu'en fait elle n'est pas en faute.
Vous dites que les conséquences pourraient être dramatiques, ça veut dire quoi ? Vous pensez qu'il peut y avoir une réaction de la part... Des militants ou des électeurs du Rassemblement National ?
Ben, on constate en France, il faut beaucoup nous en faire, hein, pour les Français. Hein. Je me rappelle du Covid, quand on nous mettait à la cuisine et qu'on ne pouvait même pas discuter avec nos grands-parents. Et on le faisait bêtement, parce que bon, une blouse blanche a toujours impressionné les Français. Mais je pense qu'effectivement, vous savez, ça peut être le caillou dans la chaussure. Qui aurait pensé que les Gilets jaunes allaient mettre... je dirais, une telle pression sur le gouvernement de Monsieur Macron. Certes, il s'en est sorti, mais peut-être que là, c'est peut-être le coup de trop. Et on peut effectivement, malheureusement, peut-être penser qu'il puisse y avoir des mouvements de foule ou que un autre événement puisse justement être la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. En tout état de cause, du retour que l'on a de nos militants et du retour que l'on a, si vous voulez, des Français en général, on voit bien que les Français sont assez déterminés à la soutenir.
Sur le territoire, vous avez eu des contacts avec vos militants, ils ont été choqués par
ce qui s'est passé. Oui, tout le monde est, enfin, avec des propos même plus durs que ça. Ils sont tous, si vous voulez, très 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 contrariés sur la façon dont on veut éliminer la candidate qui est quand même la mieux placée avec 37% d'intention de vote pour être éventuellement la future présidente de la République, tout en sachant que jusqu'à la droite de Zemmour, aujourd'hui quand vous faites un calcul, on est à 45%. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a plus beaucoup de pourcentage à gagner pour que, éventuellement, le gap puisse se faire. Je crois qu'elle avait gagné aussi en respectabilité et que les erreurs qu'elle a peut-être faites, elle a commencé à les réparer et que je crois qu'elle était en capacité, et elle est en capacité de devenir présidente de la République. En tout cas, elle en a la stature.
D'ailleurs, les réactions nationales, exception faite de quelques écologistes ou de LFI, la plupart sont venues en soutien à Marine Le Pen, en tout cas en s'étonnant un peu, voire en s'indignant de ce jugement.
Oui, en dehors de quelques aigrefins habituels, il faut bien comprendre que, d'abord, je pense que tous ces élus se disent quand est-ce que ça va être mon tour ? Parce que je me constate que même Mélenchon a eu un propos, je dirais, assez cohérent aussi, et c'est vrai que les ténors, tous ont plutôt pris parti. Alors, bien entendu, ça permet aussi de montrer à l'électorat du Rassemblement National, de dire, regardez, ouais, je suis pour votre chef, la pauvre, vous vous rendez compte de ce qui lui arrive, donc je vous soutiens, donc c'est quand même... c'est
Il y a
un peu d'opportunisme, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, je dirais, plus un élu va oser bouger une oreille, compte tenu du contexte, et qu'il va falloir effectivement renverser la table en essayant d'avoir des textes de loi qui évitent à ce que ce soit éventuellement des juges qui puissent décider, comme ça s'est passé déjà à l'époque de l'élection avec Fillon, et que l'on puisse avoir une élection qui soit troublée. Je crois que les Français sont tous très, 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 très républicains, et ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur laisse le choix de désigner qui ils veulent pour être président ou présidente de la République. Je pense que les juges ont peut-être oublié cela, et moi je ne les critique pas sur leur décision, je dis simplement qu'il faut faire attention, que chacun doit rester à sa place dans une République qui ne doit pas devenir une République bananière.
Un mot d'actualité calédonienne, Alain Descombelles. Manuel Valls est en Calédonie depuis samedi, et vous l'avez rencontré en tête-à-tête, je ne rends pas public un secret, vous l'aviez déjà rencontré lors de son premier voyage, alors que pendant longtemps le Rassemblement National était un peu considéré comme pestiféré par les ministres des Outre-mer, comment ça se fait ?
Oh, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien entendu, on a évoqué les problématiques du Rassemblement National. Je pense qu'il était aussi assez intéressé pour voir un petit peu quelles allaient être les configurations pour.
Mais quand vous l'avez vu, le jugement n'était pas encore tombé. Hein.
Non, tout à fait. Donc on en a discuté ouvertement. Et puis, on a donc évoqué, bien entendu, la situation sur la façon dont, je dirais, avec un congrès qui a voté un budget à l'arrache, et où on peut effectivement être inquiet de constater que les uns comme les autres sont dans des oppositions difficiles à raccorder. Donc il a effectivement un challenge qui est compliqué. Mais j'ai voulu surtout discuter avec lui, parce que là-dessus, il me rejoint assez. C'est le drame social-économique que nous vivons. Et moi, je voudrais avertir tous les Calédoniens que nous allons avoir non pas une année 2025 difficile, on va avoir même une année 2026 très 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 difficile, et qu'il faudrait qu'il y ait plutôt une réflexion de fond de tous les élus, y compris de tous les organismes. Là, je fais appel, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan des bancaires, sur le plan des tribunaux et ainsi de suite, d'avoir une vision un peu plus éclairée et de trouver des solutions plutôt que de terminer à tuer les dernières entreprises qui restent. Parce que, vous savez, de mettre en vente des maisons, des appartements qui sont invendables, je pense pas que ça va nous permettre de nous redresser. Donc on a 18 mois à passer, et là-dessus il est tout à fait en phase avec ce que je disais, que ça allait être très compliqué. Donc essayons d'apaiser le climat social, parce que moi j'oublie pas qu'on est à quelques jours du 11 mai, et il ne faudrait pas qu'on ait une reprise d'événements qui déjà ont bien mis à mal la Calédonie, et ce serait dramatique pour nous si effectivement on en arrivait à un deuxième drame.
Un deuxième 13 mai. Oui. Manuel Valls quitte la Calédonie ce soir. Est-ce que vous pensez qu'entre-temps, il va arriver à un compromis global comme il le souhaite ? Ça vous paraît possible, oui ou non ?
Très sincèrement, et parce que moi j'ai beaucoup de respect pour Manuel Valls, et je sais que c'est un républicain, je pense que ça va être très compliqué et ça peut être difficile, mais bon, je pense qu'il est dans son rôle, il essaye de faire des propositions, et je crois que de tous les ministres de l'Outre-mer qu'on a eu, on a eu quand même un certain nombre qui ne pesaient pas grand-chose. Ce qui est une bonne chose, c'est que sa personnalité peut peut-être nous aider à trouver des solutions. Alors d'ici ce soir, écoutez, je n'y crois pas, mais je souhaiterais effectivement que les uns et les autres avancent, si ça peut déjà amener à ce qu'ils reviennent pour peut-être rediscuter, parce que je pense qu'à mon avis il va faire un certain nombre d'allers-retours. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-là, parce qu'il va bien falloir que quelque part les gens avancent, faut le souhaiter, mais bon, je pense que ça va être très compliqué. Nous, d'ailleurs, on a notre position, hein, qui est de dire que un accord statutaire est improbable. Donc voilà, on reste sur cette position-là, et on est pour que de toute façon on recule sur 30 ou 40 ans, parce que il faut apaiser, il faut redémarrer la vie sociale et économique du territoire, et ensuite, eh bien, on peut peut-être commencer à discuter. Je sais que cette position-là n'est pas partagée par beaucoup d'autres, mais bon, c'est notre vision à nous, et c'est vrai qu'on reste sur cette position, et je crains que la situation va nous donner raison.
Alain Descombelles, représentant du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation.
De rien, Elisabeth, merci.